Bienvenue dans la série Brin de conscience.
Bizarre.
Une plongée dans le creuset alchimique de nos corps, comportements et relations.
Mais pourquoi est-il aussi méchant ?
À la rencontre des ingrédients qui nous animent dans le concret de nos vies, sous un angle biologique, curieux et inspirant.
C'est la question qui nous anime tous.
Brin de conscience est la chronique au service du vivant. C'est parti pour 6 minutes de brin de conscience. On pourrait se dire qu'une forme d'universalité dans notre manière de penser, de ressentir, de percevoir le monde nous simplifierait grandement la tâche dans notre façon d'être en relation, que ce soit avec nous-mêmes, une autre personne, un groupe ou même, plus généralement, le monde au complet. Plus d'erreurs d'interprétation possibles, plus de malentendus, de quiproquos, ni même de risque de blesser ou d'être blessé par une parole, un silence, un comportement, ou encore de se sentir éternellement incompris ou incomprise. L'intelligence artificielle générative, en pleine explosion actuellement, pourrait avoir tendance à nous conduire vers une telle universalité, ou plus justement dit, vers une uniformité de pensée, puisque les algorithmes qui lui donnent vie sont super entraînés à proposer essentiellement des réponses filtrées, priorisées, programmées. On parle beaucoup de ce que ça nous apporte en termes de confort et d'efficacité, beaucoup moins de ce que ça risque de supprimer. À côté de ça, l'étrange sensation que les intelligences non pas artificielles mais humaines ont elles tendance à prendre une toute autre direction, celle de la diversité, de l'atypicité. Comme nous l'avons dit dans les deux précédents épisodes, nous ne percevons pas tous la réalité de la même manière et chacun a sa vérité. Et si cela est vrai pour chacun selon son histoire, ses affects, son humeur, ses croyances, ça l'est d'autant plus pour celles et ceux que l'on reconnaît ou qui se reconnaîtront aujourd'hui comme neuroatypiques. Le terme de neuroatypicité, apparu au tournant du XXIe siècle, désigne l'ensemble des personnes dont le fonctionnement neurologique s'écarte, dit-on, de normes décrites comme neurotypiques. En fait, la manière la plus répandue de percevoir, de traiter et d'interpréter une information. Cela ne constitue en rien une pathologie, mais bien une variation naturelle du vivant, comme autant de manières d'habiter le monde. Effet de mode, explosion là aussi, ou simple révélation, la neurodiversité rend de toute façon compte d'une grande hétérogénéité de points de vue, et donc de la complexité de la réalité. Aussi, cette partie de la population, sans cesse en augmentation, fait chaque jour l'expérience d'un décalage profond entre ce qu'elle perçoit du monde et ce que la majorité semble ou dit voir. Non pas par volonté de s'opposer, mais parce que son système nerveux, sa façon d'encoder et de décoder l'information, suit d'autres chemins au niveau du cerveau. Parmi les profils que l'on regroupe sous cette dénomination, citons les personnes dites à haut potentiel intellectuel, HPI, à haut quotient émotionnel, HQE, les personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme, TSA, ou bien un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH. Certains auteurs parlent même de zèbre pour celles et ceux qui auraient une pensée en arborescence, complexe ou laminaire, ou même de philo-cognitif pour celles et ceux qui n'aiment que penser et surtout penser autrement. L'essentiel de ces profils partage trois caractéristiques. 1. L'hyperspéculation ou hyperanalyse. C'est le besoin de penser beaucoup, de pousser le raisonnement toujours plus loin et de tout remettre en question. 2. L'hyperacuité, c'est-à-dire le fait de capter énormément d'informations sensorielles et émotionnelles et d'être constamment en alerte. Et 3. Ce que l'on appelle l'hyperlatence, le fait d'avoir des tâches mentales qui tournent constamment en arrière-plan pour générer de nouvelles idées et perspectives. Ces personnes ont nécessairement une lecture du monde qui diffère de celle de la majorité. Une personne HPI, par exemple, pourrait avoir une pensée en arborescence, une hypersensibilité sensorielle et émotionnelle, et une rapidité d'analyse qui l'amène à voir, entendre, comprendre ce que d'autres ne perçoivent pas immédiatement, voire même pas du tout. Une personne TSA pourrait capter le monde avec une acuité remarquable, pour des détails très particuliers, dans une logique très rigoureuse, mais aussi à avoir une difficulté dans la lecture implicite des relations sociales. Quant aux personnes HQE ou TDAH, elles font souvent l'expérience d'un monde saturé de stimulation, perçu dans une intensité constante, où l'attention vagabonde produisant une forme de vérité, souvent fragmentée, bien qu'authentique, de chaque instant. Selon les estimations actuelles, environ 15 à 20% de la population serait concernée par une forme de neuroatypicité. C'est donc, loin d'être marginal, plutôt un fait de société, une réalité partagée par des millions de personnes. Cette pluralité de perceptions pose inévitablement une question fondamentale pour notre vivre ensemble. Comment cohabiter vraiment pacifiquement, collaborer intelligemment, s'aimer même sans se heurter, lorsque nos vérités s'entrechoquent au point de parfois sembler inconciliables? Car là où l'on voit une offense, l'autre a simplement exprimé une idée. Là où l'un s'enthousiasme spontanément, l'autre s'épuise à tergiverser. Là où l'un perçoit une logique évidente, l'autre s'égare dans un labyrinthe d'interprétations. Face à cela, trois chemins semblent essentiels. 1. La reconnaissance des uns et des autres, pour mieux comprendre mutuellement les fonctionnements de chacun. 2. La reconnaissance tout aussi mutuelle pour accepter la diversité de vérités telles qu'elles se vivent dans leur singularité, fussent-elles challengeantes. Et 3. L'inclusion, pour que ces vérités sincères se complètent ou s'éclairent, encore une fois, mutuellement. Cette neurodiversité est alors peut-être un précieux garde-fou pour nous prémunir d'une pensée unique et nous préserver un peu dans nos humanités. À bientôt.
Comment on mange un éléphant?
Qui mange des éléphants?
On le mange petit à petit.